Alors, ces personnages, comment en a-t-elle fait la liste? Parce qu'elle en a choisi 12, c'est beaucoup de personnes, Evelyne. Alors, qu'est-ce qui, dans chacun, lui a plu? Et y a-t-il un point commun dans chacune de ces 12 personnes?
Il y a des points communs et il y a aussi des différences ou des traits de caractère dominants qui, je vais les citer après, donnent un large éventail de tout ce que peut être l'être humain dans sa manière la plus développée et la plus fleurie. Hein. Alors, les 12, bon, ce sont 12 personnes qui ont des professions très différentes, comme il y a un médecin, un démographe, une historienne, une ethnologue, un chef d'orchestre, un physicien, un prêtre. C'est l'abbé Pierre qui l'a choisi. Mais j'aimerais pas dire trop les noms parce que j'aimerais que les gens les découvrent.
Voilà, oui.
Et puis, bon, ce qu'ils avaient peut-être en commun, c'était ce qu'elles voyaient, elles, de l'extérieur d'abord. C'était une grande fidélité à certains principes. Ce sens de la liberté et cet usage qu'ils ont fait de leur liberté. Et puis, après, en les interrogeant, elle leur a trouvé d'autres choses en commun. Par exemple, un amour très grand pour un père, mais encore plus souvent pour une mère, et le désir d'être à la hauteur de ce qu'on attendait, de satisfaire ce parent aimé. Et on peut dire qu'ils ont largement dépassé l'attente qu'on avait d'eux, parce qu'ils ont fait des choses assez extraordinaires. Il est vrai qu'ils ont vécu un siècle aussi extraordinaire. Plusieurs d'entre eux ont passé les deux guerres mondiales, les guerres coloniales ou de décolonisation. Et il y a eu beaucoup de moments dans leur vie où ils ont été interpellés très, très fortement et où ils ont répondu d'une manière admirable. Donc tout ça a fait qu'elle les a choisis, ça ce sont des caractères aussi qu'elle leur a trouvés en commun. Et puis en les rencontrant l'un après l'autre et en essayant de tirer au fond leur essence, si je peux dire ainsi, elle leur a trouvé un trait de caractère dominant. Et je vais les citer les 12. Et il y a l'enthousiasme. Donc chacun se caractérisait d'une certaine manière par un trait de caractère dominant. Alors il y a l'enthousiasme, la relativité, l'humour, la sensibilité, l'amour, la spiritualité, l'équilibre, la curiosité, la liberté, l'indulgence, l'imagination et le partage. Et elle dit aussi ensemble... tous ces éléments constituent un admirable éventail de ce que peut être l'être humain dans ce qu'il a de meilleur.
On comprend qu'elle ait envie de parler avec ces gens pour s'imaginer comment elle allait continuer son existence, parce que c'est vrai qu'avec des qualités comme celle-ci, il y a de quoi avoir envie de marcher un petit peu sur leurs pas.
Effectivement, elle dit elle-même qu'elle a changé, qu'ils l'ont changé tout au long de ce travail et qu'elle se trouve mieux, qu'elle vit mieux aujourd'hui après avoir terminé cet ouvrage. Maintenant, si tu veux, ce qu'on pourrait faire, c'est non pas dire exactement ce qu'ils ont dit ou simplement en prendre quelques-uns, parce qu'on ne veut pas quand même enlever tout le plaisir de la
tout
découverte
dévoilé, quand même,
à la lectrice ou au lecteur.
Volontiers. Alors, tu nous as choisi quelques-uns de ces 12 personnages que nous pourrions évoquer comme ça, en demi-teinte, histoire de donner envie de connaître les autres.
Oui, et d'abord, je commencerai par un homme que j'ai beaucoup aimé. C'est Alfred Sauvy, un démographe qui est quand même relativement connu et qui est né en 1898. Donc vraiment, lui, alors il a
la veille du siècle,
ce siècle. Hein. Et lui, sa grande leçon, ça peut-être j'aurais dû dire aussi, elle a demandé à ses sages de dire leur leçon aux autres, mais pas de dire leur leçon dans un sens didactique strict, non, de parler, de transmettre leur expérience. Et elle dit elle-même que ils se sont bien gardés de se poser en modèle. Aucun d'eux n'a voulu être un modèle et donner des recettes. Hein. Ils le disent exactement ainsi. Il n'y a aucune leçon à tirer qui soit immédiatement utilisable. Telle une recette dispensant de ses propres errances, ses propres tâtonnements et ses propres blessures. Donc c'est clair, hein. Ils ne donnent pas de conseils à suivre au sens strict. Mais ils donnent des idées sur les réflexions qu'ils ont faites au cours de leur vie, et spécialement maintenant qu'ils sont vers la fin de leur vie. Alors je disais, Alfred Sauvy, pour lui, la grande leçon qu'il tire de sa vie, c'est l'humour.
Alfred Sauvy, tu me l'as dit parce que je fais partie de ces gens qui ne connaissent pas Alfred Sauvy, à ma grande honte. Il est démographe, tu m'as dit. C'est étonnant qu'elle choisisse des personnes comme ça qui ont des professions tellement particulières. Alors ce démographe d'Alfred Sauvy,
parce que
pourquoi
Alfred Sauvy, il était aussi proche d'un autre homme assez célèbre. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Josué de Castro.
Oui.
Bon, alors par exemple, eux, ils ont beaucoup travaillé ensemble sur les questions d'expansion démographique trop grande, de déséquilibre entre l'expansion démographique et les ressources alimentaires. Bon, José de Castro pour le Brésil et Alfred Sauvy pour l'Europe. Alfred Sauvy s'est beaucoup préoccupé de la dénatalité en Europe, par exemple. Il en parle un petit peu dans ses pages de leurs leçons de vie, mais pas seulement un petit peu, parce que ça, on peut trouver ses théories et ses prises de position dans beaucoup des livres qu'il a écrits. Mais il s'est beaucoup préoccupé pour le fait qu'on est les Européens ne se renouvellent pas d'une certaine manière ou très peu. Et lui-même, il en a fait l'expérience dans sa propre famille. Il a eu un seul enfant qui lui a fait deux petits-enfants. Ce sont deux filles. Et ces deux filles sont tellement accaparées par leur travail et tout qu'elles ne songent pas du tout à faire d'enfants. Donc, il est très triste au fond de penser qu'il n'y aura peut-être pas même d'arrière-petits-enfants, que la chaîne va s'arrêter. Et d'une certaine manière, pas seulement la chaîne biologique, mais la chaîne culturelle aussi, puis la chaîne tout court s'arrête si on... Bon. Enfin, il est lui aussi un exemple bien vivant de ce qui se passe à l'échelle de l'Europe entière. Donc il a beaucoup parlé de ces questions-là, et il a beaucoup crié un peu dans le désert, en disant « faites attention », ou bien alors « sachez que vous allez vers une Europe très, très métissée culturellement », dans la mesure où la France sera pas seulement la France, ça va être la France et l'Algérie et l'Afrique du Nord, parce que on a besoin de bras pour travailler. Mais si les Français ne les engendrent pas, eh bien, il faudra qu'ils viennent d'ailleurs, et ils viennent déjà d'ailleurs.
Donc c'est un chantage, hein? Faites des bébés, autrement vous aurez des étrangers
non,
chez
non,
vous.
Il disait pas ça. Il disait, sachez que vous allez vers ce genre de monde. Parce que lui-même dit, et c'est une chose que je trouve bonne, il dit le 21e siècle partagera ou ne sera pas. Parce qu'il y a un tel déséquilibre, il y a de telles injustices, il y a de... qu'il faudra partager. Sinon, tout ça va sauter. C'est pas possible. Non, il avertissait les gens en disant, voilà ce que vous préparez. Alors préparez-vous à cette Europe qui culturellement sera très différente de celle d'aujourd'hui.
Alors tu dis, il a marqué, lui il a droit au caractère humour.
Oui, il a droit à l'humour. Alors il dit oui, j'ai parcouru tout ce siècle dont je peux dire ceci. Il a été massacré par des hommes sans humour tels qu'Hitler ou Mussolini. Et sauvé par des hommes armés d'humour qui ont su s'en servir à bon escient, tels Churchill et De Gaulle. Sans humour, Churchill aurait perdu la guerre. Seul l'humour lui a en effet permis de court-circuiter ministres et généraux dans les affaires les plus sérieuses. Il s'en tirait par des mots aimables et surtout par de l'humour. Oui, vraiment, l'humour est la leçon fondamentale que je tire de ces 90 ans que j'ai vus s'écouler à la vitesse de la lumière. Puis dit autre chose que j'aimerais bien citer aussi. Il dit, mais attention, il faut toujours être aux aguets, se remettre en question, ne jamais se croire arrivé, refuser surtout de s'installer dans le confort moral de ses certitudes. Rien n'est jamais ni acquis, ni certain. Douillet, le confort d'esprit est le pire des aveuglements. Et l'aveuglement est un état redoutable, qu'il s'agisse de convictions, d'idées fixes, d'idéologies ou même seulement de bonnes intentions. L'enfer n'en est-il pas pavé ? Combien d'erreurs ont-elles été magistralement perpétrées au nom de l'intérêt d'autrui, voire de l'intérêt commun, ou même de l'intérêt supérieur ? Alors c'est l'humour, mais c'est aussi le plaisir d'avoir de la vie simple, disons, ou d'avoir des plaisirs simples. C'est un homme, bon, il faut rappeler, c'est un homme qui a 10 ans a failli mourir. Donc il a comme eu un sursis de 10 ans, ce qui fait que il en est encore émerveillé d'être toujours encore vivant, alors qu'il pourrait tout à fait être mort. Et il insiste sur par exemple le bonheur qu'il peut y avoir à simplement avaler un verre d'eau, à respirer l'air frais, à sentir la pluie dans ses cheveux. Et il le dit, et d'autres le disent aussi dans ce livre, regarder rire les enfants. Ça, il y en a plusieurs qui le disent, le plaisir qu'il y a à simplement regarder rire des enfants. Donc, une jouissance de la vie simple, de la vie quotidienne, immédiate. Et puis il y a aussi dans sa vie, lui aussi, un grand amour. C'est comme Lucie Aubrac.
Tous des grands amoureux, ces personnages célèbres. Hein,
c'est incroyable. Il a des mots extraordinaires pour sa femme, qu'il dit qu'elle vaut bien plus que lui-même. Bien sûr, personne ne connaît sa femme. Et une femme parfaite, il l'a dit parfaite, et il a parcouru ce siècle avec elle. Et apparemment sans avoir eu jamais envie d'en changer. Alors ça, c'est pour Alfred Sauvy.
Il n'y a que deux femmes dans les 12 portraits qu'a fait Dominique Sodinos. Tu nous as évoqué tout à l'heure Lucie Aubrac par la belle page qu'elle écrit sur son amour de mari. Est-ce que tu as envie de nous en redire quelques mots ?
Je dirais simplement que ses leçons à elle, c'est... Elle dit qu'il faut oser et il faut s'obstiner. Il faut être déterminé. Et on obtient ce qu'on veut. Bon, c'est une femme qui a beaucoup lutté. J'ai dit, c'était une héroïne de la résistance française. Elle a d'ailleurs organisé le sauvetage de son mari qui était dans les mains de Klaus Barbie, qui n'était pas n'importe quel petit nazi. Et vraiment. C'est elle qui a organisé il était donc en prison et... L'évasion de son mari, alors qu'elle était d'ailleurs enceinte. Et en fait, tu imagines la vie de ces résistants. Le jour, elle était officiellement un professeur d'histoire. Et puis la nuit, elle était occupée par ses activités de résistance. Mais il y a quand même, à un moment donné, une brisure, je dirais, dans l'interview. Et c'est quand elle parle de ses fils. Elle a eu 3 enfants. Elle a eu un petit garçon en 1940, donc en pleine guerre. Et apparemment, elle ne s'est pas occupée de son garçon parce qu'elle avait trop d'autres choses à faire. Et apparemment, ce petit garçon en a souffert parce qu'il a passé 3 ans de sa vie ballotté d'un coin à l'autre avec une mère absente qui réapparaissait de temps en temps, le père pareil. Et il ne s'en est pas bien remis. On ne dit pas beaucoup plus, mais on a l'impression qu'il en a gardé un déséquilibre à jamais. Et ça, c'est quelque chose qu'elle ne se pardonne pas. On la sent on la sent coupable de ça. Et elle dit, mais qu'est-ce que je devais faire? J'ai pensé que c'était plus important pour mes enfants de penser à l'avenir et de leur préparer un avenir meilleur. Donc je devais lutter contre le fascisme, il fallait que je fasse de la résistance, c'était ça qui était important. Mais maintenant je me rends compte que c'est très important pour un fils d'avoir sa mère et, ou d'avoir ses parents qui s'occupent de lui. Et ça, il ne l'a pas eu. Et elle regrette infiniment de ne pas avoir été à la hauteur. On sent que c'est une femme qui n'aime pas beaucoup les échecs. Et dans ce sens-là, en tant que mère, au moins de mère de ce petit garçon-là, elle a connu l'échec. C'est ce que je dirais sur elle. Encore une chose curieuse, c'est elle qui a appris à lire à sa mère. Sa mère était une paysanne analphabète, mais une femme certainement avec un très fort caractère aussi. Et c'est elle qui, à partir de l'âge de 4 ans, quand elle a commencé à aller à l'école en France, a commencé à apprendre à lire à sa mère. Et sa mère s'était jurée que sa fille ne serait pas une paysanne, qu'elle s'en sortirait, qu'elle aurait un destin. Effectivement, la fille l'a eu.
Elle l'a eu. Est-ce que tu sais pourquoi il n'y a que deux femmes? Est-ce qu'elle s'exprime, Dominique Sodinos, sur ce choix de deux femmes parmi 10 hommes?
Non. Non, je me suis posé la même question, mais non. Peut-être qu'elle a essayé et qu'elle n'a pas eu de réponse positive. On ne sait pas exactement si tout le monde a accepté tout de suite ou si d'autres n'ont pas voulu. Ou si elle n'a pas trouvé des figures assez, je sais pas, étonnantes. Non, en tout cas, elle ne dit rien là-dessus, mais ça m'a frappée aussi qu'il n'y ait que deux femmes. Est-ce que c'est le fait que, pour des gens de cet âge-là, trouver des personnalités qui ont 80 ans aujourd'hui, peut-être qu'elle aurait pu avoir, je ne sais pas, Simone de Beauvoir, mais Simone de Beauvoir était déjà morte, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle ne s'exprime pas directement là-dessus. Alors, est-ce qu'on fait encore un dernier petit portrait sur une troisième de ces personnalités ou...
D'accord.
Alors, donc j'ai choisi, bien sûr, les deux femmes, de vous présenter les deux femmes. La deuxième, c'est Germaine Tillion. C'est une ethnologue, née en 1907, donc elle a aussi 84 ans. Donc c'est aussi une personne assez âgée. Et elle, sa grande leçon qu'elle donne, et puis le trait de caractère qui va paraître dominant à Dominique Sodinos, ça va être l'indulgence. Alors, je ne sais pas si ça lui vient de sa profession, qui évidemment l'ethnologie, ça apprend assez bien la tolérance et la comparaison entre les sociétés. Ou si c'est dans son histoire personnelle, il faut le dire, c'est une femme qui a passé par le camp des femmes de Ravensbrück, qui l'a marquée et où elle a vu mourir sa mère, qu'elle aimait beaucoup. C'est une femme donc, qui a vu en tant qu'enfant, elle a vu la Première Guerre mondiale, elle a bien vécu la Deuxième, très profondément, et elle a été aussi très liée à la guerre d'Algérie, dont a parlé Annette tout à l'heure, parce qu'entre autres, beaucoup de ses études ethnologiques ont porté sur l'Algérie. C'est une femme qui s'est beaucoup battue contre la torture à l'époque où on a mis en question la torture en Algérie. Et c'est une femme qui dit, par exemple, ceci, je cite, hein, « Toute résistance est a priori respectable, mais tout doit être tenté pour que ne s'engage pas irrémédiablement la spirale de la violence qui raidit chacun sur ses positions » et finit par rendre la situation si inextricable que les seules voix qui puissent encore se faire entendre soient celles des armes. Donc, il faut éviter ça, hein, dit-elle. Il ne faut pas arriver à ces points critiques où il n'y a plus que les fusils qui puissent parler. Il faut, même si on résiste, on doit être capable de parler, de négocier. Il ne faut pas s'engager sur ce chemin de la violence totale. Et puis, une autre chose qui m'a paru intéressante, et si tu me le permets, j'en lirai un petit extrait, si je le retrouve, c'est ce qu'elle dit sur l'indulgence. ce qui est son caractère dominant d'après Dominique Sodinos.
Cet extrait qui nous permettra de finir tout en douceur comme nous l'avons commencé sur les livres. C'est bon de se retrouver dans les livres l'après-midi comme ça, histoire d'oublier le travail de la journée.
Et cependant, l'indulgence est la seule leçon qu'elle souhaite tirer de ce long et tragique parcours. Au-delà même de la tolérance, il lui apparaît que les hommes, tous les hommes, méritent l'indulgence, tant est compliqué et douloureux le chemin que suit chacun. L'enfant n'est pas a priori la graine de cette crapule ou de ce tortionnaire qui peut devenir plus tard. Tant d'infimes, tant de minuscules petites choses se mettent sur sa route et peu à peu impriment un sens à sa trajectoire. Chaque choix, chaque erreur influençant l'acte suivant, irrévocablement. Elle m'évoque ce terrible procès des nazis en 1946 auquel elle a assisté. Quelle douleur elle me dit avoir ressentie là en voyant ces bourreaux rassemblés dans le box des accusés. Au-delà de l'horreur, de la souffrance infinie, c'est le sentiment de pitié, d'une intense pitié qui l'inondait et lui mettait le cœur au bord des lèvres. Quel invraisemblable engrenage, quel concours de circonstances, quelles influences avaient subi ces êtres pour en être arrivés à une telle abjection. Un terrible sentiment de gâchis l'accablait. Gâchis concernant les victimes, gâchis concernant les bourreaux. Une machine avait déraillé, entraînant derrière elle dans un inextricable enchevêtrement toute la suite des wagons, chacun ayant perdu ses rails et sa trajectoire. Voilà, alors c'était du livre « Leur leçon de vie » de Dominique Sodinos, paru au Mercure de France récemment. Et voilà, voilà pour le livre. Je voudrais juste rappeler qu'on vienne nous visiter dans notre stand au Salon du Livre, du 1er au 5 mai prochain, dans l'enceinte du village « Une autre Suisse pour un autre monde ». Qui sera un très grand village et où Radiozone sera bien présent.
Nous nous retrouverons bien sûr effectivement pendant ce Salon du Livre, tous réunis de toutes les associations de tout genre défendant les droits de personnes diverses, que ce soit, qui c'est qu'on peut citer, Suisse sans armée, défense de...
Magasin du Monde, Contre-Atome, oui, voilà, BVF. Oui. Comment c'est, Office Suisse des Réfugiés.
Enfin
etc.
effectivement, il faut que vous veniez nous voir. Nous serons un grand village, nous serons un bon point de repère. Il y aura plein de discussions et de débats organisés sur les thèmes les plus divers possibles. Et la librairie L'Inédite organise un débat et il faut que vous veniez. Alors Annette, quel sera le thème de ce débat?
Donc nous avons choisi de présenter le livre qui s'appelle « Vers une majorité politique ». De Lotti Ruxtul, livre qui vient d'être traduit et qui vient d'être édité donc en langue française. Et nous aurons donc un débat autour de ce livre le samedi après-midi
à 15h.
Alors nous vous convions toutes à venir participer à ce débat parce que s'il y aura des invités sur le plateau pour le débat, nous espérons aussi qu'il y aura beaucoup de femmes pour écouter et participer et poser des questions parce que l'histoire du combat des femmes c'est une chose mais l'avenir du combat des femmes en est une autre et nous aimerions savoir par exemple si vous prévoyez de faire la grève des femmes le 14 juin prochain qui devra à notre avis être l'enjeu de cette discussion et de ce débat parce que l'histoire, ça doit donner des envies et de l'énergie pour continuer. Autrement, ça ne sert à rien d'avoir écrit des pages d'histoire. Ah, enfin, ça, c'est mon avis bien personnel.
Ouais. On sait déjà qu'on aura un stand au Parc des Bastions pendant que les femmes pique-niqueront, et enfin nous aussi, pour le 14 juin.
Ah, ça, donc, c'est voilà. Une très, très bonne nouvelle de savoir qu'il faut se préparer pour un pique-nique. Alors, nous vous retrouvons, j'espère, Annette et Evelyne, dans un mois à peu près. C'est vous qui fixerez la date. Mais en tout cas, comme toujours, on a eu beaucoup de plaisir à découvrir les livres que vous avez lus pour nous. Et nous rappelons rapidement les heures d'ouverture de la librairie L'Inédite, qui fera que nos auditrices peuvent venir acheter les livres dont vous avez parlé et plein d'autres encore.
Alors, le lundi après-midi, d'une heure et demie à 6h30, du mardi au vendredi, le matin, de 9h à 11h30, 1h30, 18h30 l'après-midi, et le samedi aussi ouvert, de 10h à 1h, à Carouge, au 18 Cardinal Mermillot.
Voilà, alors merci à toutes les deux, et à très bientôt, d'abord, le Salon du Livre.
Merci à toi aussi.
J'espère que, comme nous, vous aurez aimé la musique de Carla Bley qui a ponctué tout au long de notre conversation avec Annette et Evelyne. Nous aimons beaucoup Carla Bley dans Remue Ménage et aimons tourner les pages des livres en sa compagnie. Et pour finir, Remue Ménage, eh bien, quelqu'un qu'on aime aussi beaucoup, c'est Janis Joplin, puisque dans quelques instants, vous retrouverez Les Informels. Alors, Remue Ménage pour aujourd'hui, c'est quasi terminé, si ce n'est le bon moment que vous passez encore en compagnie de Janis Joplin.
On a gun. Oh, honey, but I know better than that. I know that a woman only needs one good man.